La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle semaine, nouveau sujet dans la compagnie des auteurs. Nous nous intéressons jusqu'à jeudi à Barcelone et ses écrivains, les contemporains comme ceux du passé, dans une émission proposée par Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Copelia Menardi, Laurane Travagli-Chanal, Milena Elig et Youtou Diego Hac Lopez. La forme d'une ville change plus vite, on le sait, que le cœur d'un mortel, écrivait Julien Gracq en paraphrasant Baudelaire. Et Barcelone, évidemment, ne fait pas exception. Sa mutation s'est même accélérée ces dernières années, à mesure qu'elle est devenue de plus en plus attirante pour la jeunesse d'Europe et les visiteurs du monde entier. Mais Barcelone, comme toutes les villes, n'en fait jamais cesser de changer. Eduardo Mendoza le racontait d'ailleurs dans son roman La ville des prodiges, qui relatait son évolution rapide entre les expositions universelles de 1888 et de 1929. Nous allons donc arrêter le temps cette semaine pour photographier cette cité et revisiter son passé. Nous le faisons à partir du livre Barcelone qui vient de paraître dans la collection Bouquins aux éditions Robert Laffont sous la direction de Pierre Ducrozet. Demain, avec Mathias Hénard et Pierre Ducrozet, nous nous promènerons dans différents quartiers de Barcelone sur les traces des grands écrivains qui y ont vécu, George Orwell, Jean Genet, Roberto Bolaño notamment. Mercredi, une émission dédiée au romancier Manuel Vázquez Montalbán. Ce sera avec Michel Gazier et une promenade dans Barcelone avec son fils Daniel Vázquez. Enfin jeudi, deux grandes voix barcelonaises. Je m'entretiendrai d'abord avec l'écrivain Javier Cercas, puis avec l'auteur catalan Rafael Argullol qui nous donnera sa vision de l'architecture de Gaudi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour une première approche de la ville à travers l'imaginaire qu'elle suscite, je reçois Sophie Savary, géographe spécialisée en géolittérature et imaginaire urbain. Elle est également agent littéraire. Nous entendrons également Pierre Ducrozet au sujet du livre qui l'a dirigé. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Ville étonnante, ville anarchiste, ville révolutionnaire, ville de Picasso qui venait d'Andalousie, mais enfin là, ville de Pablo Casals, ce violoncelliste étonnant, ville très 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 incrustée dans l'anarchie, dans quelque chose d'irrépressible, hein, Barcelone.
Bonjour Sophie Savary.
Bonjour.
Nous allons parler donc jusqu'à jeudi d'un certain nombre de ces aspects de la ville énumérés à l'instant par Philippe Solers. Vous l'aviez reconnu, j'en suis sûr. C'était au cours d'un entretien avec Martin Kenen. Il faut dire que Barcelone est une ville qui appelle beaucoup d'images mentales. C'est un peu là-dessus d'ailleurs que vous avez travaillé, puisqu'en 2005, vous avez soutenu une thèse intitulée « Imaginaire d'une ville, Barcelone par ses paysages, une étude géolittéraire ».
Oui.
C'est pas courant, ça, d'étudier la géographie à travers la littérature.
Non, c'est pas courant. Ça n'était pas courant et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Oui. Même si c'est un courant, malgré tout, qui est assez répandu, notamment aux États-Unis,
oui,
mais aussi en Europe, également en Espagne, puisque l'un des géographes catalans qui se trouve dans le livre de Pierre Ducrozet, Horacio Capel, a beaucoup travaillé la géolittérature pour parler de Barcelone et l'étudier aussi.
Alors on peut dire un petit peu peut-être ce qu'est la géolittérature. Est-ce que ça signifie tout simplement comprendre l'espace à travers des textes littéraires?
Là, il y a une petite problème de mots en fait. Oui, c'est comprendre et sentir. Mais ça n'est pas la géographie de l'espace, précisément, c'est la géographie du lieu, la géographie des milieux, c'est-à-dire comprendre la relation des hommes, des habitants, à la fois des personnes et des groupes avec leur milieu. Et quand je dis comprendre les lieux, c'est aussi tout simplement ce que cherchent les géographes, c'est différencier les lieux. Et ce que je cherchais, moi notamment, c'était de différencier Barcelone des autres villes. Comment on fait pour différencier Barcelone de Madrid ou de n'importe quelle autre grande ville ? C'est ça, en fait, cette géographie-là.
Et c'est par les livres, par la littérature qu'on y arrive ?
On peut y arriver par les livres, tout simplement parce que on a dans la littérature et dans la fiction en particulier à la fois la dimension personnelle et la dimension collective. La dimension personnelle de l'auteur, le geste de l'auteur, et donc un langage qui construit la ville. Tous les lieux sont construits essentiellement de langage. Et on a évidemment aussi la dimension presque universelle du concept ville, parce que la ville, elle est à la fois particulière, mais elle endosse aussi absolument tous les mythes, toutes les constructions de la ville en tant que telle. Et dans la littérature, et en particulier dans les fictions, on rencontre ça, on arrive à trouver tout ça.
Tous les écrivains sont des géographes ?
Tous les écrivains...
Dans le sens où ils étudient un milieu ?
Dans le sens où ils étudient un milieu, oui. Ils sont géographes s'ils ont envie de faire le lien entre leurs référents et ce qu'ils vont inventer dans leur histoire, dans leur fiction. Sinon, ils sont producteurs, comme nous tous. Mmh. On est tous acteurs, géographes, mais on n'est pas forcément des géographes. Certains le sont, bien sûr.
Alors, vous avez essayé de saisir comment réel et imaginaire se combinent pour construire finalement l'identité de la ville de Barcelone. Et pour cela, vous avez instauré un dialogue entre des romans contemporains et des récits d'habitants barcelonais.
Oui, ça, c'était une hypothèse qui ne s'est pas tout à fait trouvée au début. À l'origine, moi, je pensais très sincèrement ne pouvoir travailler qu'avec des romans et m'en contenter. Et en fait, je me suis rendu compte que lorsque je lisais Montalban, quand je lisais donc les quatre auteurs sur lesquels j'ai travaillé dans ma thèse, ce sont Montalban, Mendoza, Luis Goytisolo, qui en France... Luis Goytisolo, qui est beaucoup moins connu en France, évidemment, Juan Marcé, et qui sont quatre habitants de Barcelone. Ils sont écrivains, évidemment, mais ils ont aussi quatre habitants. Je me suis rendu compte que c'était intéressant de croiser aussi avec des paroles d'habitants qui les lisent et de les faire lire, par exemple, et de les faire réagir. Ça aussi, en fait, ça me crée un second corpus, un second recueil d'imaginaire barcelonais, une espèce de méta. Et ça a été très intéressant, ce croisement.
Alors, que vous ont-ils dit, ces lecteurs ? Est-ce qu'ils se retrouvent dans la géographie imaginaire que tracent les quatre écrivains que vous avez choisis ?
Alors, les quatre écrivains sur lesquels j'ai travaillé donc à cette période, il faut quand même se dire que c'était entre 2000, même un peu avant, 1998 et 2005.
Donc c'est une autre ville complètement.
Donc, c'est quand même, voilà. C'était
la grande prospérité aussi de Barcelone ces années-là. Avant la crise de 2006.
De 2008, oui.
De 2008,
oui. Mais c'était surtout une génération d'écrivains. C'est-à-dire la génération de ceux qui ont connu la guerre civile éventuellement dans leur enfance, mais leur toute petite enfance, en revanche, qui ont beaucoup connu le franquisme, et qui donc avaient cette écriture à la fois de la fin du franquisme et du post-franquisme, de la transition... et qui avait pour obsession absolue la récupération de la mémoire. C'est une génération particulière. Et donc, il nous parlait quasiment systématiquement d'une Barcelone rêvée, d'une Barcelone de l'enfance, et pas nécessairement celle des habitants que j'ai croisés, moi.
Et c'est là où ça devient passionnant, c'est que le géographe qu'on imagine travailler uniquement sur le réel, ce qu'il y a de plus physique, la géographie est associée d'ailleurs aux déclivités du terrain, à ce qui est totalement sensible. Là, la géographie que nous proposent ces écrivains, c'est une géographie qui en fait existe dans la tête des gens, mais n'existe plus toujours dans la réalité. Et quand vous parlez justement du passé de la transition démocratique, du passé franquiste, ça évoque cette géographie qui n'existe plus et en même temps elle existe, puisqu'elle fait partie du mythe de la ville.
À la fois elle existe et elle n'existe plus. Si on prend deux exemples, le cas de Marseille, son œuvre construit ce qu'on a appelé le barrio mental, le quartier mental de Marseille. Ce quartier, il existe toujours. Et parmi les grandes images, les grands repères de ce quartier, il y a ces fameuses rues pentues, empinadas, là, qui sont dures quand on a chaud, quand on traîne le caddie et qu'on revient du mercadillo. Ça, c'est encore aujourd'hui. On voit encore les mêmes vieilles dames remonter leur petit caddie. Et en même temps, évidemment, tout ce qu'il décrit du quartier du Carmelo mythique n'existe plus parce que c'était à ce moment-là des bidonvilles, enfin à la limite des bidonvilles. Donc, on a les deux. Ça se construit. L'image qu'il va rendre est à la fois quelque chose de présent et toujours quelque chose d'un peu réinventé et présent dans la tête des gens.
Alors, pour faire une géographie de Barcelone par les écrivains, on peut aussi lire le livre dont il va être question toute cette semaine, puisque Pierre Ducrozet, qui dirige ce livre sur Barcelone, c'est un petit peu finalement ce qu'il a voulu faire. Nous sommes allés le rencontrer, justement, Pierre Ducrozet, à Barcelone à cette occasion. Il sera notre fil rouge toute cette semaine dans la compagnie des auteurs. Je vous propose d'écouter un entretien que nous avons fait avec lui dès notre arrivée dans la ville, pour faire connaissance d'abord, et puis pour comprendre son rapport à lui, à la ville. On se retrouve juste après, dans une vingtaine de minutes, et après la chronique également de Mayalen Berasategui. Pierre Ducrozet, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont la fiction biographique autour du peintre Jean-Michel Basquiat, Heroica, que vous avez publié chez Grasset en 2015, ainsi que L'invention des corps aux éditions Actes Sud, un roman du 21e siècle, comme l'a souligné la critique, un roman qui a obtenu le prix de Flore en 2017. Alors vous enseignez la création littéraire à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, en Belgique, et vous vivez à Barcelone. Vous êtes donc un homme à la fois du Nord et du Sud, plutôt du Sud, plutôt du Nord.
Plutôt du Sud. Plutôt du Sud. Je suis né à Lyon. Ma famille est française d'un côté et autrichienne de l'autre. Et effectivement, je vis en Espagne depuis 2006. Donc le tropisme est quand même plutôt au Sud. Bruxelles, c'est des allers-retours, mais c'est quand même plus, ça se situe plutôt au Sud.
Bon, alors ça tombe bien parce que c'est le Barcelonais qui nous intéresse évidemment aujourd'hui, puisque nous sommes à Barcelone et on vous a choisi pour guide, sachant que vous venez de publier l'ouvrage collectif Barcelone, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, dont vous êtes donc le maître d'œuvre. C'est un ouvrage que vous avez réalisé avec une petite équipe, peut-être même une grosse équipe d'ailleurs, parce que vous étiez 14.
Oui, c'est un gros travail que j'ai commencé fin 2011 et surtout voilà, 2012 jusqu'à maintenant. Donc c'était passionnant parce qu'il a fallu effectivement concevoir le livre, donc demander des articles à des urbanistes, des géographes, des historiens, des poètes, des écrivains. Ensuite, il a fallu effectivement constituer une histoire de la ville, une anthologie littéraire de la ville. Donc ça, c'était aussi des heures et de lecture, de recherche. Et il y a ce dictionnaire à la fin, effectivement, thématique. Donc là, il y a des entrées comme Ferran Adrià, le Barça, le parc de la Ciutadella.
Donc c'est tout Barcelone.
Tout Barcelone. Tout Barcelone, depuis les remous politiques jusqu'à l'histoire urbanistique, tout, depuis le sol jusqu'au ciel.
Alors, 14 collaborateurs, c'est beaucoup. Ça fait un livre quand même assez important qui prend place dans une collection qui est la collection bouquin, dans laquelle il y a déjà un certain nombre de villes qui ont été faites comme ça, New York, Lisbonne, Venise. Comment est-ce qu'on se projette? Je crois que ce projet vous a pris 8 ans. Comment est-ce qu'on se projette dans quelque chose d'aussi massif et puis qui se veut quand même quelque chose qui englobe, vous l'avez dit, à la fois politiquement et poétiquement, une ville entière?
Ben, on se lance sans savoir dans quoi on se lance. C'est pour ça qu'on le fait, sinon on le ferait pas. Parce que c'est
en fait, vous ne le referiez pas?
En tout cas, je le repenserais plus sérieusement peut-être. En fait, je voulais le faire parce que c'est ma ville de cœur, c'est la ville que j'aime peut-être plus profondément, et du coup j'avais envie de plonger là-dedans et de connaître plus de choses, et il y a un rapport passionnel en fait avec cette ville, donc c'est pour ça que j'avais envie de le faire. Ensuite, c'est un travail effectivement assez démentiel parce qu'il y a une vocation un peu encyclopédique dans ce livre, donc on veut essayer de tout toucher, et forcément on n'arrive jamais au bout des choses, et donc c'est un gros travail, mais c'est passionnant. Je faisais d'autres choses pendant ce temps, j'écrivais des romans, et c'est pour ça ça m'accompagnait comme ça à côté tout le temps, et puis je vivais ici. Donc je sortais dans la rue et ensuite ça renourrissait des choses. Mais si vous voulez, c'est sans fin, puisque par exemple, pour prendre un cas précis qui est la situation politique qu'on connaît tous, qui est très tumultueuse dernièrement, eh bien il fallait sans cesse réactualiser le livre. Il faut sans cesse, à des livres comme ça, il faut toujours les remettre à jour. Et donc voilà, donc c'est un gros travail mais passionnant.
Est-ce que votre regard a changé sur la ville? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez mieux maintenant de Barcelone?
Eh bien, en fait, le point de départ, c'était de dire pourquoi cette ville me plaît autant. Quelle est à quoi tient sa grâce, sa magie? Pourquoi elle me touche autant? Et je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, c'était vraiment d'essayer d'avoir plus d'éléments là-dessus. À quoi tient cet amour que j'ai pour cette ville? Alors, du coup, oui, en explorant, j'ai réussi à comprendre pourquoi, lié à son identité multiple, à ce port d'accueil, enfin, toutes ces choses-là qui ont fait que cette ville m'a accueilli si bien. Donc, oui, je pense que je la connais mieux. Ensuite, elle reste, le mystère, en fait, reste toujours intact. C'est comme on écrit des romans pour des poèmes, pour explorer, pour effleurer des mystères, mais en fait, on n'arrive jamais au cœur du mystère. C'est ça qui est bien aussi dans ces choses-là.
Peut-être que ce qui vous plaît tellement, Pierre Ducrozet, dans cette ville, c'est que c'est un appel à la liberté.
Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, un jour, je suis arrivé là et je me suis senti libre, en fait, peut-être la première fois, en tout cas la fois la plus forte de toutes. Et je sais que tous les gens autour de moi qui arrivent, qui sont venus d'Argentine, qui sont venus d'Italie, qui sont venus d'Afrique, qui sont venus d'Asie, on est tous arrivés à un moment donné et on sait réinventer ici. Donc il y a vraiment une sorte d'appel de la liberté. Il y a toujours eu ça dans Barcelone. Ça a toujours été un port. Il y a toujours eu dans le quartier qui est ici des marins qui venaient de partout. Ça a toujours été cette terre d'accueil. Et malheureusement, peut-être justement dans ces dernières années, on retient non la terre d'accueil, mais la terre un tout petit peu de repli. Et j'ai voulu, dans ce livre aussi, il y a quand même très clairement une prise de position pour cette ville-là, qui est la ville ouverte à tous les vents, la ville méditerranéenne, qui est celle qui me tient le plus à cœur.
Que vous aimez toujours autant, même si elle a beaucoup changé depuis que vous y êtes arrivé il y a beaucoup d'années maintenant.
Oui, ben c'est exactement comme Berlin, que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup changé. Et vous savez, il y a toujours les grincheux pour dire ce n'est plus comme avant, etc. Elle était plus libre, elle était plus folle. Alors c'est certes vrai, elle était plus libre et plus folle quand je l'ai connue et avant encore plus. Mais la grâce et le mystère ne partent pas. C'est des choses qui sont ancrées dans les rues, dans les murs. Et moi, je pense que ces choses-là, en tout cas dans ces deux points précis qui sont Barcelone et Berlin, le charme est là.
Et puis il y a ce nom de Barcelone, Barcelona, qui résonne dans vos oreilles, un peu comme Parme résonnait aux oreilles de Stendhal.
Oui, parce que Barcelona, ça sonnait comme ça. En fait, j'étais un adolescent à Lyon, et pour nous, Barcelona, c'était le Far West, c'est ce que je raconte dans le livre. C'était vraiment, il y avait un appel d'air, donc ça nous arrivait plusieurs fois. Je me souviens des vendredis soirs, des samedis soirs, on partait comme ça à Barcelone, et c'était pour nous aller en Californie, quoi. On prenait la route la nuit et on était heureux. Et donc, il y a dans ce mot de Barcelone, il y a quelque chose qui est vraiment un appel. Quelque chose d'italien et d'espagnol qui est ça sonne et on a envie d'aller voir si, comme dit Proust d'ailleurs dans un passage de La recherche du temps perdu, il dit est-ce que la réalité de Venise va contenir autant de beauté que le mot de Venise en contient? Donc il y avait vraiment cette idée-là d'aller voir là-bas si le mot était aussi beau que la réalité.
Alors évidemment, Barcelone, c'est une ville du mode de vie. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe entière se précipite à Barcelone, c'est parce qu'il y a un mode de vie qui est particulier ici. Comment est-ce que vous le définiriez, Pierre Ducrozet?
Eh bien, premièrement, c'est le rythme est très légèrement ralenti par rapport à d'autres grandes villes d'Europe, c'est-à-dire que tout est plus détendu et tout est plus... voilà, il y a une sorte de laisser-aller, quoi. Et il y a cette chose très espagnole qui est de, tout simplement de vivre dehors, de vivre dans les rues, dans les places. Alors, légèrement moins que, disons, à Madrid et à Séville et en Andalousie. Mais malgré tout, c'est ce qui m'a toujours plu, c'est qu'on était toujours dehors et qu'on croise les amis sur les places et que
ça vous manquait en France. Oui. Enfin, vous rêviez de ça.
Ouais, je rêvais de ça. J'étais à ce moment-là à Paris. Je me souviens que j'étais très légèrement un peu déprimé et donc je suis parti vivre à Barcelone et tout s'est ouvert. Moi, il y a quelque chose. Je suis très sensible à l'esprit des lieux et il y a des lieux qui me dépriment et d'autres pas. Et c'est quasiment impossible d'être malheureux à Barcelone. Il faut être très très fort, hein, pour être arrivé à être mélancolique à Barcelone. Parce que même en hiver, même en plein hiver, il y a toujours un coin de soleil, un coin de beauté, une rencontre, une chose. Il y a toujours une musique. Je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui vous rend heureux. Mais je le dis vraiment sans être mièvre. C'est vraiment une ville dans laquelle il est très difficile d'être malheureux.
Et pourtant, apparemment, il y a dû y avoir des malheureux à Barcelone, puisque c'est quand même une ville des soulèvements. Des gens sont mécontents, traditionnellement, à Barcelone, ville frondeuse. Ça, on le comprend très bien aussi en lisant votre livre, enfin le livre que vous avez coordonné, Pierre Ducrozet. C'est une ville qui se soulève facilement.
Oui, mais c'est un mécontentement joyeux. C'est toujours un soulèvement, une insurrection. Il y a vraiment une grande histoire de l'anarchisme et des soulèvements insurrectionnels comme ça à Barcelone. Mais c'est toujours, enfin, en tout cas, le XXe siècle est... et rouge et noir, vraiment, à Barcelone. C'est-à-dire que 1909, c'est réprimé dans le sang, mais ensuite, ce qui se passe en 36, en été 36 à Barcelone, c'est unique dans l'histoire quasiment de l'humanité. C'est-à-dire que pendant 6 mois, une ville vit l'anarchisme, mais de manière très très belle. C'est-à-dire que les prisons pour femmes ici juste à côté sont détruites, tout est collectivisé. Il y a Orwell, il le décrit très bien dans Hommage à la Catalogne. Il y a une ambiance absolument fabuleuse, bon, qui ensuite va bien sûr être réprimée et la guerre civile va mal finir. Mais en tout cas, il y a des moments comme ça de grâce et de soulèvement. Ensuite, pendant Franco, c'est une ville antifranquiste, évidemment, bien sûr, qui est réprimée, mais qui toujours résiste, etc.
D'ailleurs, la Grande Via, qui devait s'appeler l'avenue Franco, ne sera jamais dénommée de cette manière-là par les Barcelonais. C'est une petite résistance.
Ah ouais, non, ça résistait très fort ici, et dans ce quartier du Raval, plus particulièrement. Donc, c'est toujours été une ville, effectivement, frondeuse, comme ça. Historiquement, c'est une ville, comme ça, rebelle.
Alors du coup, dans Barcelone, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, qui paraît donc chez Robert Laffont et que vous avez coordonné, il y a beaucoup de balades et il y a aussi des balades qui sont des balades politiques. La politique est très présente dans cet ouvrage.
Oui, parce que je voulais justement une promenade sur cette Barcelone communiste, anarchiste, qui est un point très important du XXe siècle. Je voulais, en fait, j'ai demandé des textes à certains, et donc je voulais une sorte de panorama global. Donc il fallait cette teinte politique. Il fallait aussi de la gastronomie. Il fallait de la littérature, bien sûr. Il fallait de l'urbanisme. Il fallait le modernisme. Bref, il fallait constituer comme ça une sorte de kaléidoscope.
Et c'est un petit peu le sommaire de la semaine qu'on va passer beaucoup avec vous, d'ailleurs, comme Pierre Ducrozet, dans la compagnie des auteurs. Alors parlons évidemment de l'autre grande ville espagnole et du rapport de Barcelone avec Madrid, parce qu'on sait qu'évidemment en ce moment, dès qu'on pose le pied à l'aéroport ici, on commence à vous parler de la question de l'indépendance. On la sent, cette rivalité, dans votre livre, jusqu'au footballeur, parce qu'il y a une entrée Messi dans le dictionnaire. Messi qui est attaquant, je crois, ici à Barcelone.
Ah oui. Et quel attaquant.
Un excellent attaquant.
Non, le meilleur de tous.
D'accord, le meilleur de tous. Et alors, comment est-ce que cette rivalité, elle se sent au quotidien dans cette ville, Pierre Ducrozet?
Alors sur le sport, c'est évidemment tous les jours et c'est très très marqué. Il faut choisir son camp, là, il n'y a pas de problème. Donc
vous avez choisi?
Ah oui, depuis toujours, oui, j'ai toujours été du Barça. Non, ça c'est impensable.
Vous auriez pu choisir Madrid pour vivre?
Pour vivre, j'adore cette ville, j'y ai vécu un an. Et j'adore cette ville et elle est... Là par contre, la rivalité n'est pas si nette parce que c'est une ville est très agréable à vivre, encore plus, qui vit encore plus dans la rue que Barcelone, qui est hyper vivante, qui est encore plus conviviale peut-être même, extrêmement accueillante aussi. Et il y a une sorte de manière, là encore, de vivre et d'être ensemble qui est très très belle. Donc là, je ne les opposerai pas là-dessus. Parce
on est davantage ensemble à Madrid qu'ici, en Catalogne.
En tout cas, sur un point très précis, qui est que vous rentrez dans n'importe quel bar de Madrid, dans n'importe quel restaurant, et vous parlez à votre voisin, ce qui serait impensable en France, en tout cas, ou dans d'autres pays.
Et ici aussi.
Et ici, on est un peu entre les deux ici. Pour aller très très vite, on est quand même à mi-chemin entre la France et le reste de l'Espagne. Il y a une sorte de... On est un tout petit peu plus modéré que dans... Donc Madrid, pour ça, est passionnante. Après, au niveau politique, bien sûr, il y a cette rivalité éternelle, mais... qui dernièrement, en tout cas dans les dernières années, est peu intéressante, parce que si vous voulez, les gouvernements très précisément en ce moment ne sont pas des gouvernements révolutionnaires, c'est le moins qu'on puisse dire des deux côtés.
Alors vous rappelez qu'en 2006, une loi a élargi l'autonomie de la Catalogne, c'est ça, Pierre Ducrozet ? Mm-hmm.
Voilà, donc ça c'est le départ de toute cette histoire qu'on vit ensemble encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les deux camps vont se radicaliser et ici l'indépendantisme va grandir avec, il faut le dire quand même, le fond de l'histoire est économique. Hein, c'était, voilà, ils voulaient une autonomie fiscale plus importante qu'ils n'ont pas obtenue. Ça n'a fait qu'amplifier les choses, ça a devenu culturel, c'est devenu linguistique, alors que la base... et fiscal, il faut quand même le rappeler. Et de l'autre côté, Madrid n'a absolument rien lâché, n'a pas voulu négocier, n'a pas voulu parler. Et on en arrive à cette impasse totale qui est aujourd'hui, c'est-à-dire personne ne se parle, personne ne se comprend. Et nous qui sommes des gens qui sont arrivés à Barcelone dans cet esprit dont je parlais tout à l'heure d'ouverture, etc., on se retrouve un petit peu entre deux murs.
Oui, c'est pas tellement votre histoire finalement.
Non, la mienne est celle d'une troisième voie en fait, qui est cette Barcelone ouverte, cette Barcelone qui n'est pas du tout dans le repli identitaire comme on peut quand même très nettement le noter. Et c'est quelque chose un peu triste. On est tous un peu tristes de ce qui se passe parce que voir tout le monde se radicaliser comme ça dans des idées indépendantistes qui sont de toute façon historiquement là dans une Europe qu'on essaie de construire, dans un monde qu'on essaie d'élargir, d'essayer de voir des choses avec une focale un peu plus large, à mon avis nécessairement vont dans le mauvais sens.
Et vous, en tant qu'écrivain, ça vous inspire ou ça vous travaille d'une certaine manière? Est-ce que ça rejaillit d'une façon ou d'une autre dans vos romans?
Non, étonnamment, non, pas trop. Parce que j'ai trouvé ça, en tout cas ce dernier automne, j'ai trouvé ça un peu délétère. Et du coup, je me suis... alors ça, forcément, ça doit avoir des répercussions, mais moi c'est plutôt d'autres choses, d'autres... Étonnamment, j'ai pas encore beaucoup mis Barcelone dans mes romans. Ça viendra un jour, mais elle est là, peut-être parce que j'y vis de trop près, enfin, je suis trop dedans. Peut-être que quand j'en sortirai, je la verrai, je pourrai l'intégrer dans mes romans, mais pour l'instant, je travaille sur d'autres sujets. Mais celle-là, non, ces derniers événements comme ça, politiques, non, m'ont pas inspiré ni passionné, à vrai dire.
Alors l'autre actualité longue, pourrait-on dire, de Barcelone, c'est évidemment le tourisme. Ça fait une dizaine, une quinzaine d'années, peut-être même depuis les Jeux Olympiques, que cette ville devient un lieu touristique. Est-ce que là, la forme de la ville, pour reprendre l'expression de Baudelaire, la forme de la ville change plus vite que le cœur d'un mortel, est-ce que la forme de la ville vous semble affectée par le tourisme?
Alors oui et non, en fait, c'est peut-être un peu comme semblable à Venise, c'est-à-dire quand on arrive pendant un jour, deux jours, trois jours, on ne voit que ça, ce tourisme comme ça de masse. Et quand on y vit, eh bien, on est toujours dans des petits chemins parallèles. Et c'est comme quand on sort de cette grande avenue, eh bien, on trouve toujours. Voilà. Donc la ville, le tourisme a changé la ville. Il a changé beaucoup de quartiers, c'est-à-dire à la suite des Jeux Olympiques, avant plutôt, on a voulu nettoyer, entre guillemets, remodeler. Donc ça. Ça a donné un appel d'air économique, mais en même temps, ça a défiguré certains quartiers. Ça a légèrement changé l'esprit aussi.
Vous diriez que l'esprit de Barcelone n'est plus le même aujourd'hui que quand vous y êtes arrivé, par exemple, il y a 12 ans.
Il y a un côté un peu plus sage, quoi, un peu plus ordonné, un peu plus calme. Si vous voulez, il y avait des fêtes fabuleuses, il y avait des endroits, des no man's land, il y avait des choses. Non, il y en a plus tellement. En fait, je suis très d'accord avec la maire actuelle de Barcelone. Barcelone qui, elle, veut non pas être contre le tourisme, mais qui veut en faire un tourisme peut-être plus culturel, un peu plus voilà, un peu plus, je sais pas, un peu différent. Pas ce, forcément ce tourisme qui est celui que l'on voit la plupart du temps, qui est en gros paella, rambla et playa. Mmh. Pourquoi pas, hein, c'est très bien, mais Barcelone a tellement des milliers d'autres choses à proposer que on pourrait faire un petit clic, c'est-à-dire venez, vous êtes bienvenus, tout se passe bien, mais peut-être allons voir d'autres choses que les choses attendues comme ça. Donc oui, ça a changé la ville, mais pour nous qui vivons là, on ne le voit pas vraiment, ça s'intègre dans la ville. C'est comme quand on vit à Paris, quand on vit à Berlin ou à Londres, les touristes sont là, mais si vous voulez, on ne les voit plus au bout d'un moment.
Bon, alors on va parler toute la semaine d'écrivains qui sont passés à Barcelone, ou d'écrivains barcelonais ou d'écrivains catalans. Mais là, puisqu'on est au début de la semaine, vos écrivains catalans préférés, Pierre Ducrozet, ce qu'il faudrait lire quand on est français et qu'on n'a pas forcément la connaissance de la littérature catalane.
Alors, donc il y a vraiment, il y a deux choses, il y a l'écrivain catalan de langue castillane et l'écrivain catalan de langue catalane. Dans les contemporains, j'aime beaucoup Jaume Cabré, qui a écrit des romans magnifiques comme Confiteor, qui est sorti il y a 3-4 ans en français, qui est vraiment un très 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 grand roman.
Pourquoi c'est un très grand roman ?
Parce que c'est un roman qui essaye de lier plein d'événements d'une histoire européenne, de la Barcelone contemporaine, d'Auschwitz, de l'Inquisition, qui fait comme ça des allers-retours dans le temps que je trouve absolument passionnant. C'est un très très beau roman. J'aime beaucoup Mercè Rodoreda, qui a écrit ce grand livre, La place du diamant, sur la guerre civile. J'aime beaucoup, bien sûr, Vázquez Montalbán, donc qui lui écrivait en castillan, mais qui est un pur barcelonais en tout cas.
Et dont on parlera mercredi, d'ailleurs aussi voilà. Un petit peu avec vous, puisque vous nous ferez visiter avec son fils les lieux qu'il affectionnait à Barcelone.
Voilà, et je me rends compte en vous parlant là que les écrivains que je préfère en tout cas sont souvent les catalans qui écrivent en castillan. C'est pour une raison X ou Y, c'est pas du tout lié à une préférence linguistique, mais j'aime beaucoup Marcé, Mendoza. Voilà, ça c'est des grands écrivains du XXe siècle qui me passionnent. Il y a aussi un écrivain, Josep Pla, donc, qui est une grande, grande référence ici, qu'on connaît un peu moins en France, mais qui est un écrivain passionnant. Sagarra, Les vies privées, c'est très beau. Bref, en faisant toute cette anthologie littéraire, je me suis plongé là-dedans et j'ai découvert des milliards de choses. Là, je parle beaucoup de l'histoire du XXe siècle à Barcelone et en Catalogne, mais oui, elle est extrêmement riche, elle est passionnante, elle part dans tous les sens. Et il y a cette dichotomie et cette schizophrénie linguistique qui est très intéressante. C'est-à-dire, pourquoi Montalbán, par exemple, on en parlera peut-être, pourquoi il a choisi le castillan ? Pourquoi Jaume Cabré choisit le catalan ? Donc là, il y a plein de choses aussi qui se jouent, qui sont très intéressantes.
Et tout cela, donc, on en parlera toute cette semaine. Et aussi, avec vous, Pierre Ducrozet, merci.
Merci beaucoup. À bientôt.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Barcelone, vous l'avez compris, avec vous Sophie Savary, vous faites de la géolittérature, vous êtes spécialiste de Barcelone et vous êtes agent littéraire. Alors c'est impossible d'être malheureux à Barcelone, disait Pierre Ducrozet, c'est vrai ça ?
C'est formidable d'entendre Pierre Ducrozet se promener dans Barcelone et nous la raconter, il est souriant, on sent qu'en fait son lieu c'est le Raval. Les bars, les terrasses, le soleil, tout ce que vivent finalement les Français qui vont la découvrir et ce que j'ai découvert il y a 20 ans. Sauf que Barcelone, c'est aussi les centaines de milliers et centaines de milliers de gens quand même qui vivent dans les collines des Nou Barris, qui vivent dans, à vrai dire, n'importe quel très 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 grand quartier populaire. Avec 50% de chômage chez les jeunes et 25% de chômage globalement.
Est-ce que les écrivains s'en saisissent justement ?
Alors, c'est formidable parce qu'il est vraiment, dans le monde dans lequel j'étais. Il cite les auteurs. J'adore Mercè Rodoreda, c'est magnifique. Et Jaume Cabré aussi, qui parle catalan. Sauf que il les connaît sans doute, Pierre Ducrozet, Cristina Fayaras, elle a écrit un polar incroyable qui s'appelle Deux petites filles, traduit chez Métellier. Et ils ne sont pas heureux, les habitants de Cristina Fayaras. Et il ne faut pas oublier, justement, il parle de Montalbán, il ne faut pas oublier que Barcelone, c'est la ville du polar. Ce n'est pas pour rien que c'est une ville de... Les polars, c'est des romans qui vont creuser là où ça fait mal, qui appuient sur les boutons. Mmh. Aujourd'hui, on a tous les contemporains, là, de Carlos Tannon à Rosaline de la Maza, tous ces gens traduits en France. Ils nous montrent des mondes malheureux à Barcelone quand même.
Bon, alors il faut les lire également. La Compagnie des auteurs sur France Culture, premier jour de notre série consacrée à Barcelone et ses écrivains. Nous allons vous retrouver, Sophie Savary, dans un instant, mais tout de suite, c'est le moment de la chronique.
La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique un peu décalée dans le temps par rapport à d'habitude. Vous ne m'en voudrez pas, Maïalène Barassategui. Bonjour.
Absolument pas, bonjour.
Vous êtes journaliste littéraire, spécialiste de la comtesse de Ségur, on ne le dira jamais assez. Et vous avez lu pour nous un roman d'un Espagnol qui connaît un extrêmement grand succès dans son pays et qui vient justement d'être traduit en français pour les éditions Actes Sud. Je crois que ça sort ce mois-ci, le 7 mars. Ça s'appelle Patria et c'est un livre de Fernando Aramburu.
Absolument, c'est un livre qui a eu un succès colossal, et je pèse mes mots, en Espagne, dont on n'a pas arrêté de parler. Enfin, c'était vraiment un phénomène de société, c'était plus qu'un livre. C'est un livre qui a pour objectif en fait, de raconter, d'une certaine manière, une histoire du Pays Basque du milieu des années 80 à la fin de la lutte armée de Théa en 2011, à travers l'histoire de deux familles qui viennent d'un même village. Donc ça commence en 2011, et il y a une femme qui s'appelle Vitoli, qui est donc la veuve d'un entrepreneur qui a été tué par ETA parce qu'il n'a pas payé. Quand elle apprend que ETA arrête les attentats, elle dit « Ok, je rentre au village et je vais voir comment ça se passe ». Et au village, il y a la famille de son ancienne meilleure amie, famille dont un des enfants est membre de ETA et est en prison. Et donc, le génie de ce bouquin, c'est de réussir à faire une narration chorale immense, mmh, avec neuf personnages, les quatre parents et puis les cinq enfants des deux familles, qui sont autant de points de vue sur la société basque. Et de montrer comment, quand il y a un événement comme ça, paf, un village, un assassinat, comment est-ce qu'en fait tout le monde, d'un coup, change de rôle? Comment est-ce qu'on devient la femme d'une victime, la sœur d'un assassin? Comment est-ce que toutes les relations sociales, tout le temps, sont pourries par cette ambiance-là?
Ouais, donc c'est vraiment la réalité quotidienne de ces deux familles que nous montre l'auteur. Et c'est cela sans doute qui a passionné les Espagnols. 150 000 exemplaires vendus, ça va être adapté en série à la télévision. Ça va chercher aussi du côté de l'histoire du franquisme, ça va un peu plus loin que l'histoire de l'ETA.
Alors, le choix de Fernando Aramburu, c'est de rester vraiment à la hauteur des familles, à la hauteur des individus, d'être au plus près des émotions des gens, d'être au plus près des tripes, d'être au plus près de comment est-ce que c'est vraiment impossible de construire sa vie quand on est dans cet environnement-là. Après, il y a aussi, à mon sens, de grands tabous dans ce bouquin. C'est-à-dire, c'est pas du tout un livre manichéen. À bien des égards, j'ai trouvé les critiques de presse beaucoup plus manichéennes que le bouquin. Mais...
Lui, il dit quand même qu'il se place d'un certain côté. Il n'est pas tout à fait neutre.
Non, absolument pas. Il s'est toujours placé du côté des victimes du terrorisme. Et il veut ce qu'il appelle participer à la défaite culturelle de l'ETA. Il s'oppose à un romantisme de la lutte armée. Il s'oppose à un romantisme du terrorisme. Mais il arrive quand même, je crois, à dire des choses qui peuvent être difficiles à entendre pour les Espagnols, notamment cette chose toute simple qui est parfois quand tu deviens terroriste, c'est juste que tu nais au mauvais endroit, au mauvais moment, ou encore peut-être que le rôle de la police est à creuser, peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là aussi, ce qui n'est pas forcément facile à entendre en Espagne. Donc si ça peut faire quelque chose pour qu'il y ait de la compassion, pour que les gens puissent se représenter ce qui a pu se passer de part et d'autre, et notamment de la compassion pour les victimes de violences de terrorisme au Pays Basque, parce que c'est une vraie question, Ça fera déjà énormément, et y compris en France, parce qu'on est aujourd'hui confronté à ces questions-là, et à la grande tentation de faire de l'autre une figure d'altérité, un truc où vraiment on n'a rien en commun. Mmh. Après, du point de vue de la mémoire, qui est une question explosive en Espagne, il a tendance à faire comme si ETA était un truc un peu sui generis, un truc qui n'était pas, une organisation qui n'était pas née dans une dictature. Comme si le climat était lié à ETA et pas au franquisme puis à la transition. Et de ce point de vue-là, je considère que c'est un peu un problème. Mmh. Voilà.
Pour terminer, sur le plan littéraire, parce que là, on parle politique, on parle histoire, est-ce que c'est un grand roman, un livre de littérature ?
C'est extraordinaire, ça prend aux tripes. Ce qui est absolument génial, je trouve, c'est d'avoir autant de personnages avec autant de variétés de points de vue et à réussir à construire une narration, ça fait, je crois, entre 600 et 700 pages, qui tiennent la route et qui donnent envie de continuer et qui parviennent très efficacement à se poser la question de ce que ferait l'autre.
Voilà. Patria, traduit de l'espagnol par Claude Belton, va paraître incessamment aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Mayalen Berasategui.
Que j'ai vécu, la Barcelone d'après-guerre, quand j'étais petit, et puis et ça a été aussi une chose qui m'a fait étudier, chercher, rechercher la Barcelone ancienne, parce que je suis né après la guerre civile, dans une Barcelone d'après-guerre, Barcelone triste, pauvre, vaincue. Et cette sensation, cette atmosphère triste, je me refusais de l'accepter comme la Barcelone, la seule Barcelone. C'est pour ça que je cherchais dans les passés un esprit de Barcelone que je croyais qui devait être quelque part, qui parfois sortait dans les conversations, dans les histoires que j'ai entendu raconter, mais qui n'était pas dans la rue. C'est pour ça que j'ai commencé à voyager avec l'imagination à travers les romans, à travers l'histoire, vers ce passé pour découvrir une Barcelone qui était la vraie Barcelone, qui devait être la vraie Barcelone.
Compagnie des auteurs sur France Culture et à l'instant Eduardo Mendoza interrogé par Jacques Munier en 1988. C'est une belle illustration au fond de votre recherche, Sophie Savary,
ah,
quand
oui.
Mendoza dit que la vraie Barcelone, elle est dans son esprit, elle est dans ses livres quand il écrit La ville des prodiges, parce que finalement il ne se satisfait pas de la Barcelone qu'il voit quand il descend dans la rue.
De la Barcelone qu'il voyait. Parce que quand il écrit d'abord il écrit La ville des prodiges, il est à New York.
Oui.
Il écrit.
C'est important ça pour vous ?
Ah oui, c'est très important.
C'est donc vraiment pas la Barcelone qui existe pour de vrai.
Il écrit sur Barcelone quand il est exilé. Autrement dit, c'est une remémoration aussi. Il va reconstruire historiquement, mais il reconstruit aussi toutes ses sensations, toute sa relation. Alors. Pour Mendoza, beaucoup aux constructions, à la Ciutadella, tout ce qu'il aimait vivre. Mais oui, c'est important, il était loin. Et en même temps, il dit très bien qu'il voyait une Barcelone triste, effectivement pluvieuse, grise, celle de la période justement malheureuse, enfin, concrètement de misère, hein, du fait que Barcelone était punie par le franquisme. Il sent qu'il y a une autre Barcelone en dessous. Et ça, c'est très exactement ce que j'ai rencontré dans La ville des prodiges, mais dans l'ensemble des livres de Mendoza et finalement des autres auteurs que j'ai étudiés et que je continue à voir aujourd'hui avec tous les auteurs avec qui je travaille ou que je rencontre, c'est que Barcelone a comme moteur l'antagonisme, pour moi. C'est-à-dire, c'est une ville qui fonctionne sur des pôles opposés, des pôles contradictoires, et qui ne sont pas seulement contradictoires dans le sens que, qu'ils vont être conflictuels. Ils ont des pôles opposés et ces pôles opposés jouent constamment l'un sur l'autre. Ça veut dire Barcelone, ça veut dire quoi? Ça veut dire la Barcelone vaincue et la Barcelone rebelle. Mmh. On l'a appelé très longtemps, c'est l'une des images les plus présentes dans les romans, y compris de Montalban, la ville vaincue. Mmh. La ville vaincue, c'est aussi la ville rebelle. Ça va ensemble. Ça se construit. Ça va aussi avec le mythe de la ville martyre. Une ville la ville assiégée, la ville martyre. Évidemment, elle ne fonctionne que parce que cette ville est aussi la ville rebelle. On dit encore de Barcelone qu'il faudrait la bombarder tous les 50 ans. Le pouvoir central le disait. Autrement dit, c'est une ville qui régulièrement a quand même besoin qu'on la remette dans le droit chemin.
Mais c'est les écrivains qui entretiennent justement ce mythe-là.
Exactement, exact.
Donc est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce qu'on pourrait qualifier de cliché? Parce que c'est vrai que ça a été une ville martyre, bien entendu, mais c'est aussi une histoire qui est transmise comme ça par des écrivains qui écrivent aujourd'hui et qui gardent cette idée, alors ville martyre, mais aussi, on le verra demain, ville des prostituées, du Barrio Chino. Donc est-ce qu'on n'est pas quand même un peu dans le cliché là, littéraire?
Mais les stéréotypes et les clichés, ce sont les réserves de l'imaginaire. C'est avec cela qu'on construit aussi le nouveau. Je voulais pas me lancer là-dedans, mais je suis obligée. Parce que quand on parle de la ville martyre et la ville rebelle, ça existe depuis le Moyen-Âge. Mmh. Ça revient, c'est cyclique. Les historiens le constatent, le remarquent. Comment peut-on lire ce qui s'est passé au mois d'octobre-novembre? Sinon, le lire comme, à nouveau, une résurgence de cet imaginaire profond de Barcelone comme ville antagonique, mmh. qui ne peut pas, à tout moment, se vivre autrement que comme une ville révoltée, qui va se construire par la révolte, et qui ne peut pas non plus se vivre autrement que comme ville martyre.
Donc la question de l'indépendance, finalement, c'est la faute des écrivains qui entretiennent, cette notion sans cesse.
La faute des écrivains, les écrivains...
Enfin, la faute ou grâce à, moi, je
grâce
sais pas.
À, hein. Bon, non, c'est vrai que la littérature entretient ces mythes, mais il n'y a pas que la littérature. En fait, c'est le monde artistique en général et culturel. C'est réducteur tout de même. Ça va un peu plus loin. Mais c'est vrai que c'est aussi la fonction de la littérature.
Alors, vous parlez aussi de la description des paysages qui sont des modèles d'exemples pour saisir le phénomène d'enchevêtrement entre le réel et l'imaginaire. Et vous parlez notamment de la poussière rouge. Expliquez-nous un petit peu ce que ça signifie pour les écrivains, pour les Barcelonais, cette idée qu'elle est balayée finalement, Barcelone, par de la poussière rouge.
La poussière rouge, je l'ai décrite à partir de l'œuvre de Marcet à l'origine. Elle est très présente. Si c'est une image absolument récurrente et que je regardais dans le livre de Pierre Ducrozet, là, qu'on retrouve aussi dans l'un des extraits, si je ne m'abuse, de Sagara ou de Josep Pla. Donc c'est vrai que c'est très présent, mais tout simplement parce que effectivement la terre est rouge et qu'on est dans un pays aride et que par conséquent on est dans des mondes de poussière.
Mais ça signifie poussière quelque rouge. Chose.
Après, ce que font les écrivains, c'est en faire une métaphore. La poussière rouge existe, elle est là, elle est sur nous. Et puis Marcet et les autres, ils vont en faire, ils vont la rendre présente comme composante paysagère. De façon obsessionnelle, constante, pour, en l'occurrence, alors représenter quoi? Représenter l'aridité, représenter une certaine difficulté de vivre aussi, c'est ça que ça représente, c'est que c'est sec, c'est dur d'être dans les terrains vagues, qui sont très très présents dans l'œuvre de Marcet. C'est dur, c'est sec, c'est aride, et c'est rouge. Et pourquoi rouge? Parce que, évidemment, ça permet de connecter avec l'autre grande métaphore de Barcelone, qui est la Barcelone rouge, la Barcelona roja, de connecter avec le sang et la guerre civile, de connecter avec un certain nombre d'éléments comme ça qui font que l'une des couleurs vraiment très associées à Barcelone, c'est le rouge, hein, Barcelona roja y negra, rouge et noir. Là, on a vraiment un processus littéraire qui permet en fait de s'emparer d'une réalité physique, en l'occurrence, géomorphologique presque, et par la métaphore, d'en faire effectivement un élément de paysage, et en fait, un élément de paysage quotidien que les Barcelonais assument,
alors,
même encore aujourd'hui.
Le quotidien de Barcelone, c'est aussi, peut-être, vous allez nous le dire, un voyage dans une carte du tendre des différents quartiers, à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que pour vous, je vais peut-être commencer comme ça à vous poser la question, Barcelone est une ville qui est une ville romantique? Est-ce que c'est une ville de l'amour? Est-ce que ça fait partie des topos qu'on associe à cette ville, l'amour?
Est-ce que Barcelone est une ville de l'amour? Est-ce que c'est une ville romantique? C'est une ville qui a été, en tout cas, décrite avec énormément de romantisme, y compris dans la littérature contemporaine, y compris dans le polar. Elle est romantique tout simplement parce que le romantisme, c'est l'engagement. En tout cas, pour moi, c'est l'engagement et la passion. Et le contraste. Bon. Avec une ville comme Barcelone, en fait, on a tous ces éléments. Puis j'invente rien. Montalban, il l'a dit très bien dans son livre « Barcelonès ». Une ville de l'amour, oui, parce que... Alors, de l'amour ou
c'est
du sexe.
C'est pas la ville de l'amour comme Paris est la ville de l'amour.
Non,
c'est
non.
Autre chose.
Enfin, ceci dit, si j'avais à dire... Moi j'ai eu envie d'emmener systématiquement mes amours à Barcelone. C'était la première chose que j'avais envie de faire.
Mais on parle toujours de la littérature, on parle de l'imaginaire, voire du cliché. Et évidemment, ça n'est pas exactement la réalité.
Non, mais c'est vrai que l'une des dénominations... de Barcelone, c'est la prostituée. Mmh. Barcelona la prostituta, c'est vraiment l'une de... La puta, hein, disons les choses comme elles sont. C'est vraiment l'une des images de Barcelone. Et pas pour rien, parce qu'effectivement, Barcelone, pour beaucoup de raisons, a été une ville de la prostitution, notamment le fameux Barrio Chino, parce que à partir de la guerre civile, les femmes républicaines devaient se prostituer pour vivre.
Donc ça signifie que les romanciers de Barcelone vont décrire une forme d'amour qui ne sera pas la même dans les scènes barcelonaises que dans les scènes, mettons, parisiennes s'ils en font. Il y a quelque chose qui est tellement fort dans la ville que même les écrivains se trouvent soumis finalement à l'aura de la ville.
Oui, parce que si on parle de la prostitution elle a deux formes, au moins à Barcelone, au moins. Elle a d'une part la prostitution de rue, qui était le cas donc du Raval, du Barrio Chino, et qui était lié, enfin, c'est lointain, mais c'est en particulier lié au fait que ce quartier était un quartier où étaient la Navy, les marins, et donc on a une prostitution marine, un peu comme Amsterdam, si vous voulez. Là, ça, c'est cette prostitution-là, donc ce n'est pas la prostitution de la rue, des rues parisiennes. Et il y a la deuxième prostitution qui est très connue, qui sont dans les maisons, dans les appartements. Il y a eu beaucoup de, il y a eu des films, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, qui ont représenté, hein, c'est la Casta Blanca notamment est un film fabuleux. Et encore aujourd'hui, on a des romans, on a un roman qui vient de sortir qui s'appelle El Harem del Tibidabo,
oui.
Le Harem de Tibidabo d'Andreu Martín, là vient de sortir sur cette question. Donc c'est très 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 attaché à la ville même.
Oui. Et on verra demain justement au cours de notre balade dans ces quartiers-là si c'est encore comme ça Barcelone. Il y a les cinémas
avec Mathias Hénard.
Avec Mathias Hénard, oui. Et Pierre Ducrozet. Il y a les cinémas de quartier dont vous parlez pas mal qui tiennent une place centrale, notamment dans les romans de Marseille. On peut peut-être terminer un petit peu sur cette question.
Alors les cinémas de quartier aujourd'hui, il y en a plus beaucoup. Il y en a encore quelques-uns qui sont fabuleux, notamment à Gracia. Je vais très souvent. Ce sont des petits cinémas qui existent beaucoup, mais les cinémas dont parle Marcel, ce sont ceux de son enfance. des petits cinémas de quartier, en fait, où allaient se réfugier les enfants. Et où, en fait, ils ont complètement construit leur imaginaire d'écrivain. Avec le cinéma américain, les stars des années 50, le cinéma noir, c'est ce qui a construit leur imaginaire. Et ils ont construit Barcelone avec cet imaginaire.
Merci beaucoup Sophie Savary pour cette exploration de l'imaginaire littéraire de Barcelone. Je rappelle donc que vous êtes agent littéraire spécialiste de la littérature hispanophone, que vous avez étudié la géographie littéraire de la capitale catalane. Et puis demain, on l'a dit, ce sera une balade dans la Barcelone des écrivains dans la compagnie des auteurs avec donc Mathias Sénard et Pierre Ducrozet. Mais tout de suite, un moment de poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Printemps, voilà le printemps qui s'amène par devant les enfants. Avec ses montées de sève et cette ardeur qui est à la poésie ce que sont les saveurs aux cuisines. Faut harder, s'entraîner, entrelarder sans défaillir et mettre son cœur à l'ouvrage que nous tendent Bruno Doucet et Thierry Renard pour le printemps des poètes. L'ardeur, ABC poétique du vivre plus. Du vivre plus pour travailler mieux ou pour rapporter gros? Attention, cette semaine, c'est l'ardeur. Ensuite, celle d'après, ce sera les hardis. De manière à détacher l'ardeur au lit et le hardeur au travail. Oui, l'ardeur est féminin, mais mise au masculin, il prend l'âche aspirée. L'ardeur est inspirée, le hardeur est aspiré. Là aussi, bien distingué, l'ardeur au lit et le hardeur au travail. La nature pénétrait en moi par tous les sens et m'embrasait d'une ardeur délicieuse. C'est une citation d'Anatole France, mais nous ouvrons l'ABC poétique par Hélène Cadou, une étincelle. Une étincelle dans la neige, les roses sous les doigts du gel sont moins fragiles que mon cœur. Pour vivre, il me faut ton visage. Le ciel posé comme un miroir sur l'eau secrète d'une source. Tiré du bonheur du jour en 56. L'abécédaire commence par A, allumette. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné. Un feu pour être son ami. Un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver. Un feu pour vivre mieux. C'est une citation de Paul Éluard. Le monde est en feu, je l'aime. Ronnie Somek. Le monde est en feu. Je l'aime, en feu, la laisse du chien qui m'a conduite aveugle dans un amour ancien. En feu, le chacal qui hurle dans une chambre de soldat face à une porte fermée à clé. La queue de cheval derrière une nuque hollandaise, les lèvres où s'étale un lipstick canadien. En feu, le glaïeul qui a griffé la tête d'une poétesse de Kiryat Ono. En feu, les vers de celle qui a toujours écrit sur les roues du camion qui a fini par l'écraser. En feu, le sol qui garde les traces de ma première danse. En feu, la lune et ses dunes de sable, la tempête. La mer dont les vagues se mettent à genoux devant l'allumette qui met le feu aux poudres. Le printemps des poètes se déroule partout en France, on s'en souvient. À Paris, on lâche le vol de pigeons des premiers discours au ministère. Culture, derrière les fenêtres closes, il fait froid, vous dire l'état du buffet. Les poètes partent très loin, au-dessus de ça, les pigeons empâtés ventripotent. Pour ma part, j'accompagne James Sacré à Montpellier le 7 mars pour la maison de la poésie Jean Joubert. Je serai à 7 le 8, et c'est vrai, pour un midi poésie, et le 9 en concert texte avec Louise Clavis au théâtre Molière de 7. Ensuite, je retrouve Alain Borère et Jean Rouault le 10 à Lyon, à l'invitation de Thierry Renard, l'espace Pandora, magnifique printemps. Et puis, je retrouverai Saint-Pierrot à Amiens le 16 mars. Et puis, à Tours, enfin près de Tours, au prieuré de Cospe, le 18, je viendrai à l'invitation de Roselyne Texier faire un banquet libre cours. Comme ça. Et puis, il y en a d'autres que j'oublie. Ça n'est pas bien de t'en parler de soi, mais quand on en fait des tonnes, ça paraît léger, non ?
Merci beaucoup Jacques Bonafé pour votre agenda. À l'occasion du Printemps des Poètes, vous nous proposez une semaine sur la thématique de l'ardeur et vous nous lisiez aujourd'hui des poèmes d'Hélène Cadou, Paul Éluard et Ronnie Sommeck.